Sports Morning Edition from NPR News.
Nancy Tisan in the house.
Halim, Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pest.
Retour ce soir sur l'offensive éclair des forces syriennes dans la zone nord-est de la Syrie, zone tenue par les Kurdes qui se rabattent vers Kobané. Au nord, notamment, le rêve d'un Kurdistan syrien vient de s'écrouler. Mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de questions à poser à notre invité qui est en Syrie. Quelle est la meilleure riposte au massacre commis par les autorités iraniennes? Une frappe ou des sanctions? C'est la question de Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est à Odessa, en Ukraine, dans une salle de classe où l'institutrice essaie d'expliquer à ses petits élèves comment va leur pays.
Des tout petits jusqu'au plus grand, il faut choisir les mots justes parce que malheureusement, beaucoup d'enfants sont concernés. Dans cette classe, un papa est porté disparu.
Un reportage de Théo Renaudot à découvrir autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé la Maison Blanche, la revoilà, et sa projection privée du documentaire sur Melania Trump au milieu des drames de Minneapolis. Et puis juste avant 19h, Caroline Gillet qui frappe aux portes de l'Europe a rencontré une Américaine moitié péruvienne qui a pris la nationalité irlandaise pour venir militer à Bruxelles. Elle travaille à dénoncer les oligarques russes qui contestent les sanctions. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Suriye ordusunun bu hassas operasyonu her aşamasında büyük bir dikkatle yönetmesi.
Celui qu'on entend, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui salue l'offensive de l'armée syrienne contre les combattants kurdes en Syrie. C'était donc il n'y a même pas une semaine. Bien sûr, nous reviendrons sur cet aspect géopolitique des choses. Bonsoir Arthur Kenney.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur affilié en sciences politiques à l'Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, spécialiste de la région, et vous êtes en Syrie en ce moment. Vous avez suivi de très près cette offensive de l'armée syrienne vers les zones donc tenues jusqu'à la semaine dernière par les Kurdes, donc les forces démocratiques syriennes, les FDS. Elles ont dû se replier très vite. Expliquez-nous d'abord comment on peut expliquer justement la rapidité de cette offensive, son efficacité face aux Kurdes.
Bien, c'est un véritable effondrement des forces démocratiques syriennes, effondrement qui tient à la contradiction de tout le projet politique du nord syrien, qui était de reposer sur des forces à 70% arabes, qui depuis la chute du régime de Bachar Assad souhaitaient rejoindre le nouveau régime. Et donc les forces sont effondrées et ont à peine combattu.
Est-ce que ça veut dire que les populations arabes ont ouvert la porte très concrètement aux forces syriennes lorsqu'elles sont arrivées?
Tout à fait. Ce qu'on constate depuis une semaine de progression des forces de l'armée syrienne, c'est des soulèvements populaires qui ensuite permettent à l'armée de rentrer dans les villages sans combattre, dans les villes. Raqqa est tombée quasiment sans combat. Et malgré quelques tirs, quelques actes de retardement des militants du PKK, des militants kurdes, il n'y a quasiment aucun combat jusqu'à aujourd'hui.
On va y aller à Raqqa dans une toute petite seconde, mais j'ai quand même une autre question avant. Est-ce que vous diriez que les forces kurdes ont été surprises, y compris de la défection arabe en fait, qu'ils avaient mal lu, y compris l'alliance qui était la leur?
Tout à fait. Il y a une vraie surprise dans cet effondrement. Alors on savait que dans certaines zones comme Deir-ez-Zor et peut-être Raqqa, les populations soutenaient étaient contre ce projet politique depuis des années. Cependant, on pensait que la structure militaire qui était soutenue par la coalition internationale depuis plusieurs années tiendrait plusieurs semaines. Or, on s'aperçoit que les commandants, les cadres du PKK qui encadraient ces forces ont été dépassés par les mutineries en masse et défections en masse de leurs troupes.
Eh bien, alors, vous allez rester avec nous, évidemment, Arthur Kenney, mais je voudrais qu'on y aille justement pour raconter ça de très près à Raqqa. Il faut expliquer, donner un peu du contexte à nos auditeurs. Raqqa qui est située à la limite de ce qu'était la zone kurde il y a encore donc moins d'une semaine. Raqqa qui a été le fief de Daesh, ça aussi c'est pour redonner du contexte. Et puis donc, cette ville à majorité arabe, qui était gérée effectivement par les Kurdes et par les Arabes. Il faut nous raconter comment l'entrée de l'armée syrienne a été vécue. Bonsoir Manon Chaplin.
Bonsoir Fabienne.
Et vous allez pouvoir nous le raconter parce que vous y étiez, vous y avez passé quelques jours. À quoi vous avez assisté en fait?
Oui, c'est même tout à fait en même temps que les blindés de l'armée syrienne que nous sommes entrés près dans la ville. Après avoir dû emprunter un barrage quelques kilomètres plus au sud, les forces démocratiques syriennes avaient fait exploser les deux ponts qui relient la ville dans une ultime tentative de repousser l'offensive. Les forces de Damas ont été accueillies à Raqqa sous les cris de joie des familles qui s'étaient regroupées sur les bords de route. On entendait les klaxons, les rafales de mitraillettes. Ce que ça traduit, en fait, c'est un soulagement. C'est vrai que beaucoup de familles arabes que nous avons pu rencontrer disent avoir vécu cette présence FDS comme une injustice. Il y a eu des pratiques abusives, il faut le dire. On nous a parlé évidemment des conscriptions obligatoires dans l'armée. On nous a également témoigné à plusieurs reprises d'arrestations pour détenir simplement une photo du drapeau de la Nouvelle-Syrie sur le téléphone. Ils étaient sur le territoire du Nord-Est jusqu'ici interdits. On a rencontré aussi un jeune hier de 17 ans qui sortait de la prison d'Al-Aqtan. Il faisait partie de ce convoi de mineurs qui a été libéré. Et lui nous a témoigné de privation de nourriture, de mauvais traitements et même de cigarettes brûlées sur son corps.
Donc ça veut dire, on a bien compris que les langues étaient en train de se délier ces derniers jours. Manon, vous avez également rencontré des Kurdes hier, qui sont donc une petite minorité à Raqqa.
Oui, et des Kurdes qui viennent de revenir, ils étaient partis à l'arrivée de l'armée dans la crainte de ce qui allait advenir pour eux en tant que minorité. Ils ont retrouvé leur maison pillée, certains nous en ont témoigné. La sécurité à Raqqa, depuis, elle a été renforcée. Les forces du ministère de la Défense, de l'Intérieur, se sont déployées. Les personnes avec qui nous avons discuté se disent désormais surtout inquiètes pour leurs proches coincés à Kobané. C'est l'une des trois dernières localités kurdes aux mains des FDS. La ville est assiégée par l'armée.
Merci beaucoup Manon Chaplin pour ces précisions. Donc vous rentrez tout juste de Raqqa. Merci beaucoup. Arthur Kenney, est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure, les forces syriennes installent quoi ? Une administration, laissent des hommes, sont en train réellement de s'installer dans cette zone-là ?
Bien, la transition a déjà commencé. Donc l'ordre de Damas, c'est que les employés de l'ancienne administration du Nord-Est syrien restent à leur poste et continuent de travailler. Les écoles sont toujours ouvertes, les boulangeries fonctionnent et les services publics reviennent dans les villes qui sont nettoyés et bien achalandés en électricité et en eau.
Et est-ce que la zone est démilitarisée ?
Les cadres de Damas sont déployés également pour assurer la coordination aux ministères qui vont redéployer maintenant des ressources dans ces zones.
Est-ce que ça veut dire aussi que la zone est démilitarisée au fur et à mesure ou pas ?
Alors l'armée quitte les villes, en effet, pour se porter plutôt sur les dernières poches de résistance des forces démocratiques syriennes et du PKK. Et c'est la sécurité générale et la police qui prennent en charge maintenant les affaires internes dans les villes et sur le reste du territoire.
Le verre à moitié plein, Arthur Kenney, c'est que du côté kurde comme du côté syrien, personne ne voulait plonger ce pays dans une guerre civile. Vous le disiez, il y a eu finalement peu d'affrontements et personne ne voulait ça. Personne n'avait probablement même les moyens de rallumer ce genre d'étincelle. Le verre à moitié vide, c'est que le rêve d'un Kurdistan syrien sur le modèle irakien est définitivement enterré. L'est-il définitivement ? Est-il en train de se recréer plus au nord ?
Alors, ce rêve était une illusion. La population kurde en Syrie est répartie sur des principautés extrêmement éclatées. C'est des poches confettis. La majorité de la population kurde vit dans l'ouest du pays, entre Alep et Afrin, donc totalement déconnectée des régions kurdes de l'Est. Et en fait, c'était le soutien de la coalition qui a permis aux forces kurdes affiliées au PKK de contrôler l'ensemble de ce territoire. Donc ce projet était né d'une immense contradiction et était amené à terme à disparaître.
Est-ce que, parce que les Kurdes qui ont fui la zone sont en train tous d'entrer dans Kobané, ou là pour le coup qui est une vraie ville à majorité kurde, ou alors dans la province d'Assaké qui est plus à l'est, est-ce que là ce sera une autre affaire pour l'armée officielle syrienne qui est autour pour l'instant ? Est-ce que son but c'est vraiment selon vous d'entrer dans Kobané ou de trouver une solution qui maintiendrait une spécificité kurde, peut-être même une forme d'autonomie ? C'est quoi le projet autour de Kobané ?
Non, alors l'armée l'a déclaré depuis le début, elle ne rentrera pas dans les villes à majorité kurde comme Kobané ou Hamouda ou d'autres encore. L'armée se contente pour l'instant de repousser les forces du PKK en dehors du nord syrien et des zones à majorité arabe. Et ensuite, des négociations sont en cours et ce soir, on vient d'apprendre qu'un accord va permettre une transition politique. La sécurité générale et les forces de sécurité de Damas vont se déployé dans les prochains jours à Assaké, Kamishli et dans d'autres villes qui sont actuellement contrôlées encore par les forces kurdes. Et derrière ça, une transition politique va avoir lieu dans les villes à majorité kurde pour la mise en place de nouvelles des institutions de l'État syrien, mais avec évidemment une intégration massive des civils kurdes dans ces institutions.
Avec
tout le problème, c'est les garanties de sécurité que pourra donner Damas aux populations kurdes, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de tension ethnique ni de conflit ethnique en Syrie, entre Kurdes et Arabes.
Avec l'assentiment de Recep Tayyip Erdogan, ou pas? C'est pour ça qu'on a utilisé ce petit moment sonore tout à l'heure pour commencer notre conversation, parce qu'on sait bien que lui, il est juste au-dessus. Les relations avec les Kurdes, évidemment, on les connaît. On sait ce qui se passe un peu plus dans ce pays. Est-ce que pour mettre en place ce genre de choses, Al-Shara, le président par intérim syrien, de toute façon, doit avoir eu un quitus turc, à votre avis?
Tout à fait, l'opération a été bien coordonnée avec les Turcs, dont l'armée, avec ses drones et ses moyens de renseignement, a soutenu le déploiement de l'armée syrienne. Mais on assiste plus à un soulèvement populaire dans l'ensemble du nord-est syrien, des gens qui se libèrent eux-mêmes de la tutelle du PKK qui a pesé sur eux pendant des années. Manon parlait des exactions commises contre la population, et c'est bien ça qui est le moteur de la chute extrêmement rapide, en moins d'une semaine, du projet du nord-est syrien.
Il faut aussi donner du contexte, Arthur Kenney, pardon, la bataille de Kobané, ça a été un fait d'armes pour les Kurdes, réellement, c'est grâce à eux que Daesh a été vaincu. Est-ce que ça compte aux yeux du pouvoir central syrien? Est-ce que ça compte pour Al-Shara? Est-ce que ça compte dans cette autre histoire kurde en Syrie qui est en train de s'écrire ou pas?
Bien sûr, cela compte. Alors, la coalition internationale était également pour beaucoup dans le succès de la lutte contre l'État islamique, même si les Kurdes étaient sur le terrain. Quand on parle des Kurdes, il faut bien avoir en tête qu'on parle surtout de forces affiliées au PKK, c'est-à-dire un parti qui ensuite, de manière très autoritaire, a contrôlé une société qui était à 70%, voire 80% arabe dans le nord-est syrien. Et actuellement, Damas est bien clair sur le fait que elle combat le PKK et son projet, mais elle n'a rien à voir contre les populations kurdes qui sont considérées comme syriennes.
Pour terminer, Arthur Kenney, il y a deux choses qui m'ont intrigué cet après-midi. D'abord, les Européens et les Américains qui ont appelé les deux parties aujourd'hui à faire attention à ne pas créer un vide sécuritaire qui serait favorable à l'État islamique. Est-ce que c'est une crainte légitime?
C'est une crainte légitime. Les Kurdes ayant refusé jusqu'à maintenant tout accord de transition politique avec Damas, le PKK reste sur des positions ethniques très dures et refuse toute concession. Il y a eu des vides dans les prisons. La prison de Raqqa, dont parlait Manon, la prison de Hartan, a dû être assiégée pendant une semaine par les forces du gouvernement, jusqu'à ce que les cadres du PKK qui s'étaient réfugiés acceptent de rendre la prison. La prison de Shehdadeh, dans l'Est, les prisonniers se sont évadés, donc 117 prisonniers qui sont partis dans la nature, la population les a recueillis et les a remis à l'armée syrienne quand ça s'est déployé dans la zone ensuite. Mais maintenant, la grande interrogation, c'est les 7000 combattants de l'État islamique qui sont dans le reste des prisons. Et sur cela, les forces américaines sont actuellement en train de les transférer vers l'Irak. C'est à peu près pour deux semaines deux semaines d'opération. Et derrière, évidemment, la grande question, c'est les populations civiles qui sont dans les camps de Al-Hol et de Roj. Pour l'instant, le camp de Al-Hol est bien sécurisé par les forces de Damas qui se sont déployées dans la zone il y a 4 jours de ça. Mais évidemment, la question de la transition est extrêmement importante, et c'est pour ça que l'accord qui se décide ce soir est fondamental.
Il y a autre chose qui m'intrigue, que ce soit la dernière question très rapidement. Ahmed Al-Shara va parler à Vladimir Poutine demain. C'est pas la première fois qu'il le fait, c'est au moins la deuxième fois. Ils parlent tous les deux de relations cordiales. On se souvient quand même que Moscou, c'est celui qui a maintenu au pouvoir pendant très très longtemps Bachar el-Assad. Il y a encore des bases en Syrie. Est-ce qu'il y a une ambiguïté dans les relations en ce moment entre Al-Shara et Moscou?
Alors, évidemment, les relations sont pas au beau fixe, mais la Syrie, affaiblie comme elle est, n'a pas les moyens d'avoir un ennemi comme la Russie, qui, évidemment, avec des alliés comme l'Iran, pourrait déstabiliser le pays et avoir une politique très offensive contre le nouveau régime. Donc, une politique d'accalmie que le régime syrien met en œuvre.
Et qu'on va suivre, évidemment, et peut-être grâce à vous, Arthur Kenney, qui est chercheur et avec nous depuis Damas. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci vraiment. La suite, c'est vous, Louise Baudet, qui remettez le monde à l'endroit.
Comment réagir face au massacre en cours en Iran? Le monde occidental hésite.
Et c'est juste après ça.
Remember the news of the view. sitting in this town again. It's not yours and it's never been. What are you doing in my head again? You don't belong here, you never do.
I have tears trapped in my throat.
De Bar Italia, qu'on commence à bien connaître ici dans Un jour dans le monde. Ils sont dans la playlist d'Inter, le monde à l'endroit. C'est Louise Baudet.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Louise, comment réagir face au carnage en Iran? Pourquoi les États-Unis, mais aussi l'Europe, hésitent?
Il y a d'abord la manière forte et surtout pour l'instant sa mise en scène. Cette armada américaine qui s'approche des côtes sud de l'Iran. Le porte-avions Abraham Lincoln et sa centaine d'appareils, avions de chasse, porteurs de radars ou de brouilleurs, trois destroyers lance-missiles en guise d'escorte et en soutien de ce groupe aéronaval impressionnant, les avions ravitailleurs et gros porteurs de l'US Air Force qui rejoignent en ce moment la trentaine de bases aériennes américaines implantées au Moyen-Orient. Alors ce n'est pas encore autant que pendant la guerre des 12 jours en juin dernier, mais on s'en approche et Donald Trump laisse planer le doute. Veut-il bombarder des sites militaires ou mener des frappes ciblées contre des dirigeants clés dans le but de faire tomber le guide suprême Ali Khamenei? Le président américain souffle le chaud et le froid, menace de passer à l'action comme au Venezuela, puis la minute d'après assure que les Iraniens sont prêts au dialogue.
L'inaction est-elle une option, Louise?
Alors de moins en moins. Rappelez-vous, au plus fort de la contestation il y a 2 semaines, cette promesse de Donald Trump, l'aide est en route. Le président américain avait ensuite rétropédalé, remerciant même les mollahs d'avoir annulé toutes les pendaisons prévues. Sauf que la coupure générale d'Internet, si elle complique la documentation de la répression, ne peut occulter complètement l'ampleur des massacres. Plus de 3000 morts reconnus par les autorités, mais peut-être 10 fois plus selon l'ONU, bilan inouï, alors que les arrestations continuent malgré la fin des manifestations. Partout dans le monde, la diaspora iranienne appelle à l'action, qu'elle soit militaire ou diplomatique.
Sur un terrain sur lequel l'Union européenne est attendue.
Oui, les Européens se réunissent jeudi à Bruxelles pour décider de nouvelles sanctions. Ce ne seront pas les premières d'ailleurs. L'Iran est déjà frappé de mesures de rétorsion financière et commerciale. 230 Iraniens, dont plusieurs ministres et une quarantaine d'organisations, sont visés pour violation des droits humains. Leurs avoirs sont gelés et les frontières européennes leur sont fermées. Jeudi, cette liste noire devrait être élargie. Mais une question ne sera probablement pas tranchée, celle du classement comme groupe terroriste des gardiens de la révolution. Force armée de 200 000 hommes extrêmement organisée, bras idéologique du guide suprême, accusé de jouer un rôle central dans la répression. Les Pasdaran sont mieux équipés et entraînés que l'armée régulière et ils contrôlent des secteurs stratégiques de l'économie iranienne. Les considérer comme organisation terroriste servirait à les asphyxier encore un peu plus financièrement et avec eux tout le régime.
Et les Européens hésitent à les qualifier de terroristes?
Oui, c'est un sujet de désaccord parmi les 27. L'Allemagne notamment est pour, l'Italie qui était contre vient de changer d'avis, mais pas sûr que cela suffise à modifier les équilibres. La France notamment réserve sa position, car une telle décision présente un risque, celui de rompre définitivement des canaux diplomatiques jusqu'ici toujours maintenus avec Téhéran, y compris pendant la guerre des 12 jours. Impossible ensuite de se positionner en force de médiation dans un contexte où les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont toujours bloqués à l'ambassade de France à Téhéran et où l'Iranienne Mahdia Esfandiari, poursuivie pour apologie du terrorisme et possible monnaie d'échange, sera fixée sur sa peine dans tout juste un mois.
Merci beaucoup Louise Baudet. Le 18-20, la suite suite, c'est le reportage. Je l'avais perdu, figurez-vous. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour à Odessa ce soir et nous sommes dans une salle de classe. Il faut bien parler de la guerre aux enfants. Mais les familles ne le font pas toujours à la table du dîner, on peut comprendre pourquoi. Alors c'est à l'école qu'est initié le dialogue, questions, remarques, réponses entre professeurs et enfants. Nous entrons dans l'école primaire numéro 19 d'Odessa, dans la classe de Madame Olikova. Et c'est Théo Renaudot qui raconte.
Ces petits Ukrainiens de 10 à 11 ans s'installent dans cette salle de cours de Madame Olikova. Comme tous les matins, la journée commence par une minute de silence en l'hommage des soldats tombés au front.
Attention, minute de silence national.
Bonjour.
C'est l'heure de notre cours sur l'Ukraine.
Les enfants, pour vous, c'est quoi la guerre?
Le danger?
Il y a souvent des coupures de courant chez nous.
À cause des alertes, je ne peux pas dormir avant 2 ou 3 heures du matin. J'ai sommeil. Pourtant, tous les jours, je vais à l'école.
Dites-moi comment, en tant que classe, nous pouvons aider les militaires, les médecins, les volontaires.
En collectant des sous,
leur faire un dessin.
Très bien.
Le cours de l'institutrice ne repose pas seulement sur des questions-réponses. Le pays, qui est agressé par la Russie depuis bientôt 4 ans, teinte ses tableaux de nationalisme.
L'unité. La culture, c'est aussi un front de défense. Tant qu'il y a une culture, il y a une nation. Tout est lié. Quand les gens souffrent, ils écrivent des poèmes, de la musique. La musique aide à exprimer les sentiments. On va en écouter une qu'on connaît déjà. Elle a été écrite en 1914.
Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
Говорити про війну дітям – це завжди важко.
Parler de la guerre aux enfants, c'est toujours délicat. Des tout petits jusqu'au plus grand, il faut choisir les mots justes, parce que malheureusement, beaucoup d'enfants sont concernés. Certains ont des parents militaires, certains ont un parent sur le front, d'autres ont perdu quelqu'un. Dans cette classe, un papa est porté disparu. Il faut toujours aborder cela correctement, avec beaucoup de tact. Bravo, bravo à tous. Bien. Maintenant vos questions sur la guerre.
Quand est-ce qu'elle se termine, la guerre?
Sacha, je ne sais pas quoi te répondre. Quand j'ai posé cette question à mon mari, qui est au front depuis le début de la guerre, il m'a répondu, pas bientôt. Aujourd'hui, il me dit, l'essentiel est de vivre. Sacha, quand ça se terminera, nous fêterons ça tous ensemble. Mais aujourd'hui, il faut vivre et aider. Nous sommes une nation libre, forte et l'Ukraine.
Voilà le cours interrompu par une alerte aérienne due à un drone suicide qui a visé la région à ce moment-là. Les enfants se sont réfugiés, comme chaque jour ou presque, dans le sous-sol de l'école.
Un reportage signé Théo Renondeau, correspondant de RFI à Odessa pour France Inter. Merci beaucoup. La suite, dans le 18-20, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars et remontée à la surface grâce à vous, Guillaume Audin.
Sous les radars en Afrique australe, noyé sous les eaux, meurtrière, et sous les crocs, carnassier de crocodile aux dents d'acier.
Et wow. Caroline Gillet, Caroline au pays des 27.
Moi, je vous parle des ISDS, des procédures d'arbitrage qui pourraient coûter très cher à l'UE. C'est compliqué, mais on va y arriver.
Mais il n'y a pas de crocodile, hein, c'est
non,
ça qui est bien.
À
tout de suite, les amis, le tour de la planète continue avec quelques mauvaises nouvelles des années 80. Hein. Voici Moon Martin, Bad News. C'est Djoubaka qui programme l'émission. News. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles avec Guillaume Audin. Quoique, allons vérifier ça sous les radars.
Et
là, pour le coup, on commence par une mauvaise nouvelle. Tout ce que j'ai construit a été avalé, dit ce monsieur. Même ma salle de danse a été emportée. C'est un professeur sud-africain qui parle. Lui et des centaines de milliers d'autres habitants de la région ont tout perdu dans d'immenses inondations.
Inondations cataclysmiques, on peut le dire, en Afrique du Sud, au Mozambique et au Zimbabwe. Les images qui proviennent d'Afrique australe montrent des paysages dévastés où les pluies ont tout emporté, des maisons, des routes, des récoltes, ainsi que de nombreuses vies. Au moins 100 personnes, des comptes très provisoires, ont disparu dans ces trois pays, soumis, il faut le dire, depuis ces dernières années, à des aléas climatiques extrêmes, sécheresses records, pluies intenses, cyclones monstrueux. Tous les ans, ce sont plusieurs centaines de milliers d'habitants qui sont impactés par ces dérèglements en chaîne. Les troupeaux, le bétail, les élevages sont touchés. La sécurité alimentaire de ces populations est en jeu. Et ces jours-ci, pour ajouter au tableau, emportés par les crues, jusque dans les villages, des crocodiles ont fait leur apparition. Au moins 3 personnes ont été dévorées au Mozambique par cet animal, l'un des plus dangereux d'Afrique.
Je crois que viennent muchas oportunidades para Honduras, con esperanza.
Nasri Asfoura, vainqueur de l'élection présidentielle au Honduras, le nouveau président, a prêté serment ce mardi.
À Tegucigalpa, la capitale du Honduras, ça c'est camembert, hein, au Trivial Poursuite, camembert bleu, section géographie. Le chef d'État de ce pays d'Amérique centrale, 8 millions d'habitants, n'a pas été élu triomphalement, mais après des semaines d'incertitude entre accusations de fraude, demande de recomptage et ingérence des États-Unis, Nasri Asfoura, hondurien d'ascendance palestinienne, très ami d'Israël, prend officiellement ses fonctions de président. À ses compatriotes, il dit les mots espoir, avenir, il jure que les investissements vont affluer, c'est en substance qu'on vient d'entendre. Asfoura est un conservateur très pragmatique qui ménage ses alliances, observe depuis le Honduras les rapports de force sur son continent. Il a voyagé à Washington qui le soutient, Trump l'a appuyé pendant l'élection, mais il n'est pas insensible non plus aux œillades de Pékin, dont il sait que les investissements dans la région sont plus importants que ceux des Américains. En somme, pour être chef d'État en Amérique centrale, ces temps-ci, il faut avoir et savoir gouverner en pleine tempête géopolitique.
Hi, Mr. President.
Congratulations.
Did you watch it?
I did not. Yeah, I will see it on the news.
Il sera dévoilé au grand public en fin de semaine. Mélania, le documentaire sort vendredi aux États-Unis. Après Minneapolis, la Maison-Blanche cherche à reprendre le contrôle du récit présidentiel.
Et il n'est certainement pas innocent, à 3 jours de la sortie en salle de ce documentaire, d'avoir entendu en prime ce jeudi sur Fox News la première dame des États-Unis, elle qui parle si rarement, évoquer Minneapolis. Mélania Trump ne dit pas grand-chose des circonstances. Elle appelle à l'unité, se positionne contre les émeutes, demande aux manifestants d'être pacifiques. Voilà pour l'aspect non-violence, on repassera. Non, ce qui interpelle sur la forme, c'est le cadre de cette interview au premier plan, la première dame, et en arrière-fond, Mélania en lettres capitales. C'est le titre de ce documentaire diffusé. Tenez-vous bien, le week-end dernier à la Maison-Blanche, nous apprend le Washington Post, soirée black tie, smoking, photo op et robe de gala. Il y avait Tim Cook, le patron d'Apple, Mike Tyson, l'ancien boxeur, Georgina Rodriguez, la compagne de Ronaldo, et encore des violonistes. Bref, le gratin des États-Unis et sur Insta, leur jolie story à 1000 années-lumière d'une Amérique, à ce moment-là précisément révulsée par la mort d'un citoyen abominablement tué par la police anti-immigration.
Guillaume Audin, merci beaucoup Guillaume, vous reviendrez demain. Le mardi, Caroline Gillet s'invite dans les institutions européennes et ouvre toutes les portes.
France Inter, le 18-20.
Et aujourd'hui, Caroline, dans votre galerie de portraits, on fait la connaissance de Francis Verkamp. Verkamp ?
Oui,
c'est ça. Voilà, elle travaille à Bruxelles aux Amis de la Terre Europe.
Oui, une ONG qui alerte depuis des années sur les ISDS, des procédures d'arbitrage assez douteuses et surtout très techniques que je vais essayer de vous expliquer calmement. Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions de l'UE contre la Russie, cette procédure, elle est utilisée par les oligarques pour contre-attaquer. Francis a la petite trentaine et elle a contribué à publier un rapport explosif sur le sujet en décembre dernier.
Hi, good morning.
Good morning, how are you?
It's Monday.
Ça va, comme un lundi. Francis a un père américain et jusqu'à ses 12 ans, elle vivait aux USA. Derrière elle, dans l'open space où elle travaille, il y a pas mal de posters.
Écologie sans lutte des classes et du jardinage.
Et elle porte un pull à capuche noire avec marqué
« We'll trade racists for
d'accord
refugees.
Pour échanger des racistes contre des réfugiés.
C'était un cadeau de mon père.
Quand elle avait 12 ans, son père est parti monter une ONG de défense de l'écologie au Pérou. Francis y vit avec lui jusqu'à ses 19 ans. Son père épouse une péruvienne, ils ont un enfant et retournent aux USA, où une partie de la famille n'a que des green cards. Je lui demande comment ça se passe pour eux en ce moment.
Tout le monde maintenant dans ma famille, ils portent maintenant toujours les preuves de citoyenneté avec eux quand ils sortent à la maison. Alors je suis inquiète pour eux un peu tous les jours.
Francis, entre-temps, était partie faire des études à Paris. Elle avait rejoint ses premières actions militantes en Allemagne pour s'opposer aux mines de charbon. Mais sa ville préférée, c'est Bruxelles. Et pour une fois, au lieu de la laisser commenter le climat cata, le running gag de cette chronique, je vais la laisser un peu dire que Bruxelles, ma ville natale, c'est génial.
Dans tous les classes sociaux, c'est international en fait. Et donc je trouve qu'il y a une grande tolérance.
Si Francis est à Bruxelles, c'est notamment pour faire du plaidoyer. Et cette année, elle va donc travailler essentiellement sur les ISDS. En français, les RDIE, procédures de règlement des différends entre investisseurs et États. Ce mécanisme, il est utilisé par les investisseurs étrangers pour réclamer à un pays des dommages et compensations si l'État adopte des politiques qui impactent l'investissement.
C'est souvent utilisé par les investisseurs européens ou nord-américains pour poursuivre les États du Sud.
Par exemple, Total Energy peut menacer le Mozambique dans le cadre de ses investissements dans un projet d'extraction de gaz naturel.
C'est pas très transparent, c'est pas régularisé, il n'y a pas vraiment un contrôle international là-dessus.
Je lis que ça peut être mis en place quand l'État, par exemple, augmente le salaire minimum ou souhaite introduire des nouvelles normes environnementales ou sanitaires, ou encore augmente les impôts sur les sociétés.
L'ISDS, ça peut dissuader les États d'adopter les politiques d'intérêt public parce qu'ils ont peur d'être poursuivis et ça peut être des montants vraiment énormes de leur budget. Et il peut réclamer non seulement le montant qu'il a investi, mais aussi les bénéfices futurs escomptés qu'il a perdus. Donc là, on arrive vraiment à des grands calculs. Et ce sont des fonds publics qui sont réclamés, c'est-à-dire nos impôts. C'est ça le problème, c'est cette levier de pouvoir énorme des parts des investisseurs contre les États.
Et tout est opaque. C'est pour ça que dans leur rapport, les ONG européennes n'ont pas pu donner les chiffres exacts. Mais on estime que les oligarques russes, par exemple, réclament 48 milliards de dollars à l'UE et à ses alliés, Royaume-Uni, Ukraine et Canada, avec ce système ISDS, en dédommagement des sanctions qui leur sont imposées depuis le début de la guerre d'agression russe.
Par exemple, il y a un oligarque russe qui s'appelle Friedman, qui adore utiliser l'ISDS.
Il y a un site où on trouve toutes les personnes visées par les sanctions européennes. Et effectivement, on voit le milliardaire Michael Friedman, co-actionnaire du groupe Alpha. Je lis qu'il réclame au Luxembourg, qui a validé et appliqué les sanctions européennes, la restitution de tous ses biens, ainsi qu'une compensation financière.
Pour avoir gelé ses actifs.
Soit au total 14,5 milliards d'euros. Et donc, c'est aussi du fait de l'existence de ces mécanismes d'arbitrage dans les vieux traités d'investissement que la Belgique a bloqué la décision européenne de saisir les avoirs gelés russes, détenus essentiellement en Belgique par Euroclear, pour financer la guerre en Ukraine.
Euroclear, on peut penser à ça comme une espèce de banque.
La Belgique a peur, elle aussi, de poursuites par les oligarques russes via l'ISDS.
Donc là, je les passe à côté d'un chez moi.
Quand on parle d'Euroclear, Francis me dit que c'est drôle, elle a d'ailleurs habité juste à côté de leur bureau à une époque.
Et là, on voit Euroclear.
C'était quand elle militait auprès du mouvement écolo Extinction Rebellion.
Une gratte-ciel toute carrée, béton et vert. Et en fait, c'est là que je me suis fait arrêter. C'était une action contre l'investissement des acteurs financiers dans les énergies fossiles.
Et effectivement, quelqu'un a filmé la scène, elle est sur YouTube, et on voit des policiers arrêter les militants. Je demande à Francis ce que c'est d'être arrêtée par la police belge. Elle répond des heures d'attente, en cellule, peu d'accès aux toilettes, mais des gaufres sont distribuées. Et entre les militants, pour passer du temps, beaucoup de chants.
Parfois, tu cherchais juste un truc que tout le monde connaît pour passer le temps. Alors, ça devenait Britney Spears.
Pour revenir à nos tribunaux d'arbitrage, je demande à Francis ce que préconisent les Amis de la Terre, son ONG. Elle dit l'idéal, ce serait de sortir de ces accords.
En fait, les droits des investisseurs, comme une entreprise domestique, ça doit devoir aller dans les tribunaux nationaux.
Et pourquoi est-ce que l'Union européenne ne le fait pas alors?
C'est possiblement à cause de la pression des investisseurs européens. Aussi, il y a une inquiétude pas très justifiée que si on sort de ces traités-là, on sera moins attractif pour les investisseurs. Mais ça marche pas vraiment comme ça parce que tu peux mettre en place des autres définitions de défense des droits des investisseurs. D'ailleurs, en fait, Ursula von der Leyen, elle a dit que la Commission européenne va chercher de sortir des traités d'investissement avec la Russie. Et ça, en état, il peut décider pour eux-mêmes.
Elle a l'air très sympa, hein. Bah Francis oui. Vercamp, Caroline, merci beaucoup.